Sotrevoix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui dans les Sotrevoix de la presse, nous recevons Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Donc Pierre, toi tu viens nous présenter un média en ligne, Disclose. Donc est-ce que tu peux, pour commencer, nous présenter un petit peu Disclose, nous dire quand ça a été créé, comment, pourquoi, quels sont un peu les buts, l'objet de ce média en ligne ?
Oui, bien sûr. Disclose, ça a été créé en 2018 avec une campagne de financement participatif qui a réuni plus de 80 000 euros à l'époque. Et notre ambition à l'époque, c'était donc de lancer un média d'investigation indépendant sur un modèle proche de ce qui peut se faire notamment dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire un média qui est financé éventuellement des fondations philanthropiques pour révéler des informations sur des sujets d'intérêt public.
Donc Disclose, on entend pas mal parler de vous également pour des enquêtes sur l'extrême droite. C'est vraiment un média d'actualité nationale.
Oui, alors Disclose, je dirais même que c'est un média d'investigation international, hein, puisque en fait on se donne pas d'échelle de référence, on va autant faire des enquêtes ultra locales comme celle qu'on a publiée il y a 2 semaines là, sur l'Université catholique de l'Ouest qui se trouve à Angers, comme des enquêtes internationales où là on va aller voir ce qui se passe dans les champs pétroliers qui sont la propriété d'entreprises soutenues par le Crédit Agricole et qui se trouvent au Pérou. Hein. Donc voilà, on ne se donne pas de limites géographiques et on publie assez peu, une trentaine d'enquêtes par an, ce qui nous différencie de la plupart des sites d'actualité, y compris des sites d'investigation d'actualité.
Et du coup, avec ce rythme donc, d'enquête et de publication, justement, qui n'est pas du quotidien, comment est-ce que vous travaillez ? Vous n'êtes pas en réponse, justement, à une actualité. Donc, c'est des choix d'enquête, de dossiers qui sont faits bien en amont et que, du coup, vous allez prendre du temps pour, justement, les mener à terme.
Oui, effectivement, c'est l'une de nos marques de fabrique et de nos chances aussi. Hein, c'est qu'on ne travaille pas du tout dans l'urgence chez Disclose. Une enquête, c'est souvent plusieurs semaines, plutôt plusieurs mois de travail, de la part d'un ou d'une journaliste. Parfois, on travaille en équipe aussi. Et effectivement, ça nous permet de sélectionner une thématique et puis de l'explorer sous différents angles. Pour vous donner un exemple, en début d'année, on a publié une enquête sur Decathlon, sur les conditions de production des vêtements Decathlon et qui nous a emmenés dans 5 ou 6 pays différents avec un angle sur les conditions de travail, un autre sur les liens avec la déforestation et le cuir qui était utilisé dans les chaussures de Decathlon, etc. Donc effectivement, on se donne pas de limite de temps et on collabore beaucoup avec d'autres médias, notamment à l'international, parce que ce sont eux qui ont les connaissances du terrain et qui peuvent nous apporter un point de vue unique sur ces grands sujets qu'on traite.
Tu parles justement d'enquêtes collaboratives à plusieurs personnes. Donc là, on va y venir parce que vous venez de publier le guide du journalisme d'impact. Une des dernières enquêtes dont tu parles justement sur l'Université catholique de l'Ouest, vous avez travaillé avec un média que nous, on connaît bien aux Sotrevoix de la presse, c'est La Topette, hein, journal papier principalement sur Angers. Comment ça vous est venu justement cette envie, ce besoin, je ne sais pas comment l'exprimer, de travailler avec La Topette entre autres et Reflet.info également qui fait partie de ce trio d'enquêtes.
Disons qu'on a des approches éditoriales qui sont parfaitement complémentaires et une vision, je pense, du journalisme qui est complètement partagée, hein, à savoir que le journalisme, il doit être là pour agiter les pouvoirs, pour pas aller dans leur sens, et au contraire, pour révéler des informations d'intérêt public qui trop souvent sont cachés. En l'occurrence, là, le fait qu'un milliardaire d'extrême droite qui a un projet politique très très clair d'installer le RN au pouvoir en 2027, eh bien le fait que ce milliardaire finance une partie des activités d'un des plus gros établissements universitaires privés en France, l'Université catholique de l'Ouest. Donc pour nous, c'était naturel de nous allier à La Topette parce que ils ont la connaissance du territoire, ils ont des réseaux que nous on n'a pas, et puis ils ont une caisses de résonance aussi, et c'est là que nous on parle d'impact, qui fait que ben lorsque ils vont sortir leur journal, il va être visible. Alors pas en kiosque, mais dans tous les points de vente du journal, donc des épiceries, des librairies, etc. Et ça va permettre de démultiplier du coup la portée de l'enquête bien au-delà des réseaux sociaux et nous des réseaux habituels qu'on utilise chez Disclose.
Puisqu'on est sur cette enquête justement concernant Pierre-Édouard Stérin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Pierre-Édouard Stérin? J'allais dire, c'est un peu un Bolloré numéro 2 qui est en train d'acquérir des médias, de créer son empire et justement de vouloir influencer sur la vie politique française.
Oui, c'est ça. Alors c'est donc ma collègue Ariane Lavrieux hein, qui a travaillé sur cette enquête en partenariat donc avec La Topette et Reflet.info. Pierre-Édouard Stérin, en fait, ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il a des activités philanthropiques, mais qui sont tout sauf désintéressés, donc via le fonds du bien commun, alors qui organise des soirées caritatives lors desquelles sont présentées tout un tas d'initiatives qui ont très souvent une coloration religieuse. Ça, c'est pas du tout répréhensible en soi. Le problème, c'est quand il vient soutenir plutôt des initiatives qui, elles, ont une visée idéologique et une visée idéologique xénophobe, raciste, et c'est tout le problème hein, de Pierre-Édouard Stérin. Il y a tout ce projet Périclès qui a été révélé par le journal L'Humanité, là, il y a un peu plus d'un an maintenant, et qui montre que, en fait, Pierre-Édouard Stérin ambitionne de créer une structure, un laboratoire d'idées, de placer des personnalités à des postes clés, notamment dans les médias, et de mettre la main sur des médias pour espérer faire gagner la bataille des idées, en fait, à l'extrême droite. Et donc, devant cette menace, dont on a vu les dégâts hein, qu'elle a fait et qu'elle fait toujours au sein de l'Empire Bolloré, eh ben, il est plus que jamais important d'essayer d'enquêter dans les marges, en fait, là où l'influence ne se voit pas à première vue, et alors même qu'elle est, elle est très prégnante, à savoir dans la formation des esprits des étudiants, et en l'occurrence là à Angers.
Dans ce travail que vous avez justement mené avec La Topette et Reflet.info, donc on se retrouve en effet sur un exemple très, très parlant de partenariat, de médias qui se retrouvent, qui se rejoignent, qui mettent en commun un peu leur force pour aborder un dossier, une enquête. Et suite à cette parution, enfin suite en parallèle, je ne sais pas comment exprimer, vous avez justement édité le guide du journalisme d'impact, dont c'est une des formules, une des choses que vous proposez justement, c'est que des médias se retrouvent, soient partenaires sur des enquêtes. Est-ce que tu peux rapidement un peu nous expliquer le pourquoi de ce guide du journalisme d'impact ?
Oui, bien sûr. Alors le guide du journalisme d'impact, donc c'est un manuel qu'on a rendu public le 15 septembre, hein, c'est tout récent, et qu'on a réalisé avec un autre média indépendant qui s'appelle Rembobine. Rembobine, c'est une newsletter qui revient sur l'actualité oubliée tous les 15 jours et qui essaie de mesurer ce qui a changé depuis que un sujet d'enquête a fait la une un an auparavant. Et nous, on partage beaucoup d'atomes crochus avec Rembobine parce que ben, on revendique chez Disclose faire ce suivi dans la durée de nos sujets, mais je dirais même avant tout, on revendique le fait que nos enquêtes, elles ont des répercussions dans le monde réel. Elles ont des conséquences. Voilà. Par exemple, des conséquences judiciaires ou des conséquences médiatiques, si elles sont reprises par d'autres. Pourquoi pas, elles peuvent provoquer des mobilisations dans la rue, etc. Et ça, donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le journalisme d'impact. Et avec Rembobine, on a allié nos forces pour essayer de théoriser un petit peu en fait ce qui pouvait se rapprocher du journalisme d'impact, comment nous on le faisait, mais surtout comment d'autres médias, notamment à l'international, le pratiquent, et donc comment ils essaient de faire en sorte que ben l'investigation, ça provoque pas juste la colère, mais que ça permette aussi de passer à l'action.
C'est ce que vous essayez justement d'expliquer. Donc vous avez cette habitude déjà de travailler à l'international avec d'autres médias, en dehors justement de ce dont on a parlé avec autant La Topette, Reflet.info. Et comment ça se passe quand on mène comme ça des projets en partenariat ?
Ben, en fait, nous, effectivement, on travaille beaucoup avec des médias souvent indépendants ou parfois des grands médias de référence, typiquement Le Guardian, la BBC, pour le Royaume-Uni et j'en passe hein, pour d'autres pays. Le principe, c'est toujours le même, hein, c'est d'essayer en fait d'étendre la portée de nos révélations et surtout de nous assurer que l'information qu'on va révéler, elle va atteindre les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui sont le plus en capacité de changer les choses. Et ça, c'est une démarche qui du coup pourrait nous rapprocher plus du travail des ONG, hein, du travail des ONG qui font du plaidoyer. Alors nous, on ne prétend pas du tout remplacer les ONG, mais on prétend allier nos forces à d'autres médias et parfois à d'autres associations pour essayer de faire en sorte que, ben, à chaque révélation, il y ait une action et faire en sorte en fait que notre journalisme, ben, il soit utile. Et donc ça, c'est effectivement, ça s'incarne beaucoup au travers des collaborations internationales, mais aussi de partenariats qu'on va nouer avec les Amis de la Terre, Greenpeace, par exemple pour l'environnement, Amnesty International pour les droits humains, et ainsi de suite. Et c'est vraiment quelque chose dont on est très friand chez Disclose pour vraiment prolonger nos enquêtes dans le monde réel.
De la presse.
Je trouve ça assez intéressant la lecture justement de ce guide parce que justement on apprend un petit peu quelles peuvent être les répercussions sur la société de certains articles, hein, certaines enquêtes. Par exemple, justement, on parlait de l'impact social. Vous donnez l'exemple d'une enquête menée par Mediapart qui révèle l'existence d'un cartel français de matériel électrique. Et suite à cette enquête, l'autorité de la concurrence a infligé une amende de 470 millions d'euros aux fabricants et distributeurs pour entente sur les prix. Donc vous précisez également justement que des articles peuvent coûter des milliers de dollars à réaliser, mais produire des millions en bénéfices distribués dans toute une communauté. Alors, bien sûr, il y a tout cet impact social, là, qu'on n'arrive pas à mesurer, et là, les chiffres sont assez probants. Dans ces cas-là, on se dit, le bénéfice, il est pour la communauté. En tant que média, en dehors d'un bénéfice, on va dire, une sorte de fierté d'avoir publié cette enquête, d'avoir mené cette enquête, qu'est-ce qu'on en retire? Est-ce que y a un soutien après qui suit cette publication, cette réussite?
Alors, ce qui est sûr, c'est que, enfin, oui, nous, on a la chance d'avoir le soutien, et comme tout un tas d'adhérents hein, de la presse, pas pareil, de la part de notre communauté. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soutien, il n'est pas à la hauteur, je pense, des bénéfices pour la société que le journalisme d'investigation indépendant peut avoir. Et l'exemple de Mediapart est très bon, hein, puisque 470 millions d'euros qui ont été récupérés donc suite à une amende de l'autorité de la concurrence, 470 millions d'euros, c'est largement plus que le chiffre d'affaires de Mediapart chaque année. Hein. On prend un autre exemple là d'un média américain qui s'appelle The News and Observer, qui lui avait calculé que pour $1 dépensé dans son travail d'enquête, il y avait jusqu'à $216 000 qui avaient pu être économisés en fait par la puissance publique grâce à leur travail sur en l'occurrence les violences policières. Donc c'est intéressant, moi je trouve, parce que plutôt que ça propose de changer le discours aussi en fait des médias qui aujourd'hui disent abonnez-vous, faites-nous un don pour le prix d'un café. Bah là c'est plutôt ce qu'on apporte à la société, c'est peut-être pas tout à fait quantifiable, mais ça vaut sans doute plus que le soutien que vous pouvez nous apporter. Et pour moi, c'est aussi un moyen pour les médias indépendants de défendre leur valeur pour la société. Alors, on ne vaut pas, bien sûr, que pour l'argent qu'on rapporte aux caisses de l'État. Et c'est pour ça que nous, on s'efforce aussi de voir tous les types d'impact qu'un média peut avoir. Et parfois, un article, un podcast ou un documentaire va peut-être changer radicalement la vie d'une ou deux personnes, mais ça, si on arrive à le savoir en tant que journaliste et à le raconter, bah, c'est formidable, parce que on aura eu un impact, hein, pour réutiliser ce mot, qui est peut-être inquantifiable, mais qui est bien réel. Et à mon sens, c'est à ça que doit servir le journalisme. C'est à changer la vie des gens, en l'occurrence à corriger les injustices et à combattre l'impunité. Nous, c'est en tout cas ce qu'on a comme vision chez Disclose.
Et parmi justement cette manière de travailler, vous parlez également de préparer l'impact avant la publication, donc c'est-à-dire que pour chaque article, avant chaque parution d'un article, d'une enquête, vous avez un travail justement de recherche un petit peu de partenaires qui peuvent être hors du monde journalistique, hors des médias.
Tout à fait, partenaires ou même des personnes qu'on ne conçoit pas comme des partenaires, mais qui peuvent être intéressées par nos informations et qui pourraient en faire quelque chose. Par exemple, des élus. Il y a quelques années, là, on a fait une grosse enquête sur le géant de l'acier ArcelorMittal, par exemple, et on a contacté pas loin de 100 personnes, dont des élus de la région Hauts-de-France, des parlementaires au niveau européen, etc., pour voir si tous ces parlementaires voulaient donner suite, et ces élus locaux voulaient donner suite à notre enquête. Et en l'occurrence, on a eu des résultats assez impressionnants, avec des questions qui ont été posées à la Commission européenne, une lettre ouverte à la région, etc. Et si on n'avait pas contacté ces élus individuellement, ils n'auraient sans doute jamais vu passer nos informations. Ça ne veut pas dire qu'on est en connivence avec eux. On leur envoie juste, nous, un briefing, un résumé en fait de nos informations, et on leur dit voilà, on est disponible pour recueillir une éventuelle réaction, et c'est tout. Et ça, c'est vrai que les médias ne sont pas habitués à le faire, ils sont plutôt habitués à déverser en fait leurs informations dans l'espace public et puis à espérer qu'il se passera quelque chose, que des politiques notamment vont s'en saisir. Nous, c'est vrai qu'on est sur une démarche plus proactive. On peut se le permettre aussi parce que, vous le rappeliez au début de cet appel, on n'est pas soumis au diktat de l'actualité. Et donc, comme on publie sur une temporalité longue, on a le temps de préparer l'impact vraiment en amont, plusieurs semaines auparavant.
Dans les autres outils que vous donnez donc dans le guide, c'est appeler à collaborer avec le public. Je pense que ça se fait pas pour chaque enquête, c'est vraiment sur des sujets spécifiques où on fait appel au public, aux lecteurs, enfin à un public vaste.
Oui, tout à fait. C'est une autre manière, effectivement, hein, d'aller chercher de l'impact. C'est en fait de reposer sur, pas forcément des lecteurs ou des lectrices du média, mais de lancer un appel à témoignages. qui va peut-être toucher des personnes qui ne connaissent pas le média et qui vont être les mieux à même en fait de divulguer des informations cachées et qui sont d'intérêt public. C'est ce qu'a fait par exemple Mediacité sur les crèches privées. Ils ont fait un appel à témoignages, ils ont recueilli, je crois, plus de 130 témoignages. Ça a abouti à la parution de plusieurs enquêtes dans les colonnes du média, mais surtout à la publication d'un livre, un livre enquête, à la rentrée 2024. Et ça, c'est la preuve que, en fait, quand on s'appuie aussi sur les premières personnes qui savent, en utilisant, là, en l'occurrence, la force de la communauté, hein, sur Internet, eh ben, on peut trouver des informations inédites et espérer faire changer les choses.
Est-ce que vous donnez justement un exemple de travail avec le public? C'est un travail qu'a fait Street Press, une sorte de référencement en gros des groupes néofascistes en France?
Oui, tout à fait. Ce qu'ils ont appelé la carte au faf de mémoire, c'est un exemple typique effectivement de journalisme qui se repose vraiment sur l'expertise des lecteurs et des lectrices et qui après reprend la main entre guillemets, c'est-à-dire va apporter un regard journalistique sur la réalité des mouvements donc d'extrême droite et néofascistes en France et c'est vrai que c'est le genre de en fait de format éditorial qui à l'arrivée vous avez une carte de France de la mouvance néo-nazie au quotidien hein, si je puis dire hein, puisque cette carte elle est vraiment alimentée en permanence et ben vous en repartez avec l'impression qu'effectivement ce journalisme il est utile pour et qu'il est unique en son genre hein. C'est pas un article sur la dernière descente de néo-nazis dans tel ou tel bar, c'est vraiment une vue d'ensemble qui est à même après d'aiguiller alors peut-être les services de renseignement qui travaillent sur la mouvance d'extrême droite, mais aussi des citoyens et des citoyennes qui veulent tout simplement mieux combattre cette menace.
Et donc, on parle un peu de tout ce qui est le journalisme d'impact, hein, les modalités, les pratiques. Tu as déjà parlé justement de ce que vous nommez le livre enquête, et un livre qui devient une référence durable, c'est-à-dire un livre qui arrive quand même à avoir un certain succès de librairie pour pouvoir, entre guillemets, sensibiliser le public et les responsables politiques. Je pense qu'on a peut-être un souci en ce moment encore avec l'Empire Bolloré qui détient Hachette, qui détient une grosse partie de la distribution. Est-ce que là, on se retrouve des fois face justement à un mur, à une impossibilité de diffusion?
On risque en tout cas de s'y confronter de plus en plus, effectivement, si on ne défend pas plus le pluralisme dans l'édition. Un très bon exemple de ça, hein, c'est le livre Enquête, sans doute qui a fait le plus parler ces dernières années, celui de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, là, sur les dérives du groupe d'EHPAD privé Orpea. Ce livre, il a été publié aux éditions Fayard. Aujourd'hui, Fayard est tombé dans l'escarcelle hein, de Bolloré. Et effectivement, moi, je me demande vraiment si Victor Castanet aurait pu bénéficier de la liberté d'enquête dont il a bénéficié chez Fayard à l'époque, Fayard avant Bolloré, après le rachat hein, par le milliardaire donc de cette maison d'édition. Donc effectivement, ce format éditorial-là, il est potentiellement menacé. Il est après un format parmi d'autres pour qu'une enquête ait un retentissement. Hein. Nous, on croit beaucoup aussi chez Disclose au documentaire, par exemple. C'est pour ça que chaque année, à peu près, on est partenaire d'une chaîne de télévision pour un documentaire. L'année dernière, on a enquêté sur Ikea, par exemple, et ça a donné lieu à un documentaire de 90 minutes sur la chaîne Arte. C'est en tout cas cette idée, hein, au-delà de Bolloré, que pour démultiplier l'impact d'une production journalistique, eh bien, il faut jamais hésiter à l'adapter, essayer d'en faire, de la prolonger sous une autre forme, et que ce soit bien sûr du web au papier, mais aussi du web à la télé, du web à la radio, etc.
Juste une petite promotion au passage. Donc je rappelle qu'il y a juste avant l'été est sorti le livre Débordé Bolloré. C'est justement un réseau d'une vingtaine de libraires, d'éditeurs qui ont collaboré pour dénoncer justement les pratiques Bolloré dans le monde du livre. Donc c'est un livre que je conseille. Parmi tous ces outils d'impact, j'ai cherché, mais parce qu'aux autres voies de la presse, un peu comme au SPPP, on est assez fan de médias papier. Et là, la seule option papier que j'ai trouvée, c'est un exemple de carte postale pétition, entre guillemets. Est-ce que ça veut dire que pour vous ou pour d'autres, le média papier n'est plus un média d'actualité, un média qui peut servir justement à promouvoir, à faire sens?
Non, au contraire, hein, c'est vrai qu'on tenait absolument à mettre cet exemple, mais on aurait pu en ajouter beaucoup d'autres, hein, sans doute. On a été contraint par la place, alors parce que même si c'est un guide sur le web, on s'est contenté de mettre un exemple par support. Donc il y a un exemple pour le papier, un exemple pour l'audiovisuel, un exemple de BD également. Puisqu'on a parlé du livre Enquête, mais il y a la BD Enquête aussi, hein, qui là pour le coup est le règne du papier par excellence. Et là, effectivement, sur cet exemple que vous mentionnez, donc c'est un média new-yorkais en fait qui enquêtait sur les pratiques illégales des propriétaires de logements qui refusent de chauffer les logements donc pour leurs locataires, ce qui est illégal, hein, dans une certaine mesure à New York. Et donc le média new-yorkais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayer de repérer tout d'abord où étaient les principales réclamations en fait adressées par les citoyens et les citoyennes locataires dans la ville sur un logement mal chauffé. Et puis après, ils ont ciblé quelques quartiers et ils ont imprimé plus d'un millier de cartes postales qu'ils ont distribuées donc à la main dans les boîtes aux lettres de ces quartiers pour essayer de récolter des témoignages. Et ça leur a permis déjà d'avoir des récits très précis et de faire des portraits de locataires qui justement vivent dans des conditions indignes, mais au-delà de ça, de montrer en fait l'ampleur d'un abus de pouvoir de la part des propriétaires, et donc de pousser la ville derrière à légiférer pour contraindre davantage les propriétaires à lutter contre le mal logement. Et donc ça, c'est un exemple même où la force du papier, elle est irremplaçable. C'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas un autre moyen numérique, c'est certain que non. La télé est pareil. Peut-être qu'ils auraient pu placarder des affiches un petit peu partout, mais là, avec ces cartes postales qui contenaient un QR code, donc qui permettaient de se connecter à un petit formulaire sur lequel on pouvait indiquer son témoignage, et ben ce média qui s'appelle The City aux États-Unis est parvenu à toucher vraiment les personnes les plus concernées par ce problème, et du coup, de fait, à faire changer les choses pour cette personne.
Avec cet exemple, donc, on va s'arrêter là. On va inciter, entre guillemets, les auditeurs et auditrices à aller découvrir Disclose, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas. Disclose, le site internet, disclose.ngo, si je ne me trompe pas.
C'est ça. C'est ça, disclose.ngo.
Et si les personnes sont intéressées par le guide du journalisme d'impact, je trouve très intéressant, autant pour les journalistes en formation, les journalistes en place, que pour des personnes qui voudraient comprendre un petit peu et puis justement avoir des idées de comment ça se passe et quels sont un peu les pièges également, mais les possibles de faire sortir des enquêtes. Où est-ce qu'on peut trouver le guide du journalisme d'impact?
Eh ben, si vous avez retenu le nom, il suffit de le mettre dans votre barre d'adresse sur votre navigateur web, guide-journalisme-impact.fr. Et donc là, vous pouvez le télécharger gratuitement, il est en accès libre. Et donc c'est encore une fois Disclose et Rembobine, hein, qui l'édite. Je précise quand même une petite chose, c'est que ce projet n'aurait pas été possible sans le Fonds pour une presse libre, qui, je crois d'ailleurs, est un soutien important à plusieurs membres du syndicat de la presse, pas pareil. Donc ça me rend optimiste par rapport au fait qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui soutiennent la presse libre, indépendante dans ce pays.
Oui, il y en a besoin, surtout que c'est pareil, il faut être un peu méfiant quand on voit les subventions culturelles qui sont coupées à droite à gauche et les menaces sur les soutiens financiers, les différentes subventions destinées aux médias, que ce soit les radios associatives de proximité ou les autres médias. On a besoin également pour tous ces médias-là de soutien qui viennent de l'extérieur. Le Fonds pour la presse libre fait partie justement de ces fonds, de ces fondations qui œuvrent pour le développement et la promotion des médias indépendants. Merci à eux. Bah, Pierre, merci beaucoup.
Bah, avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation.
Au plaisir. Et puis bah, au plaisir de vous lire. Salut. C'était Les Hautes Voix de la Presse avec Pierre pour Disclose à propos du livret sur le journalisme d'impact. À la semaine prochaine, d'ici là.
Où va s'intériger ton stylo ?